Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour, l'onde de choc du rapport Sauvé continue de secouer la société française. Depuis qu'elles ont été rendues publiques en octobre, les conclusions de ce rapport sur les crimes sexuels commis dans l'Église et le nombre de victimes, 216 000 personnes victimes de prêtres et de religieux en l'espace de 70 ans, ces conclusions donc font réagir la communauté catholique. C'est ce qu'a constaté Lise Verbeek lors d'une réunion publique organisée à Amiens.
Bonsoir à tous. Merci d'être venus nombreux.
Dans la salle, environ 200 personnes ont fait le déplacement pour cette réunion intitulée « Faire de l'Église une maison sûre ». Et cela démarre par l'écoute de témoignages de victimes.
Je garde le souvenir indélébile de cette effroyable odeur de cigare froid et de sa respiration malsaine alors que j'étais collée à son ventre.
Je restais prostrée. J'étais pétrifiée, comme tétanisée.
Pour expliquer le rapport de la commission, Ségolène Mogg prend le micro. Elle est déléguée pour la prévention et la lutte contre la pédophilie à la Conférence des évêques de France.
Après le cadre familial élargi, le premier lieu de violence, c'est l'Église. Face à cette situation tout à fait dramatique, il faut entendre ce que nous n'avons pas entendu, voir ce que nous n'avons pas vu, et enfin se mettre à agir à la hauteur des cris poussés par ces personnes.
Le rapport Sauvé estime à 216 000 le nombre d'adultes à avoir été victimes lorsqu'ils étaient mineurs de violences sexuelles de la part d'un prêtre, d'un diacre ou d'un religieux, et ce depuis 1950. Quand l'évêque d'Amiens, Gérard Lestang, a lu le rapport, il en a d'abord été bouleversé.
L'autre réaction, c'est une réaction d'humiliation pour l'Église, de honte. Voilà. Ma belle église, moi qui ai toujours aimé l'église, moi les 35 premières années de ma vie, j'ai jamais entendu la moindre histoire. Peut-être que j'étais aveugle, comme une bonne partie de la société, sur l'église et sur la société, mais voilà, c'est une partie de mon enfance qui était souillée par ça, parce que je n'avais pas du tout cette image de l'église-là. Donc c'est une forme de honte et puis de malaise, quoi, si on veut.
Un phénomène systémique, selon le rapport, des chiffres terrifiants pour Ségolène Mogg, qui ne pèse pas ses mots.
C'est d'abord un acte de mort. C'est un meurtre pour lequel certains enfants survivent. Et ça laisse l'empreinte de la mort sur les personnes qui en ont été les victimes.
Le rapport explique que dans les années 50 et 60, la hiérarchie ecclésiale cherchait d'abord à se protéger du scandale et les victimes étaient invitées à se taire. Ce n'est que dans les années 90 qu'elle commence à être entendue, mais il faut attendre les années 2010 pour que l'institution les reconnaisse. Alice était dans le public ce soir-là. Sa belle-mère a été abusée par un prêtre dans son enfance.
Elle a vécu vraiment ce temps de silence dans sa vie. Elle a vécu aussi ce moment de la parole qui se libère un peu. Et donc elle nous en a parlé à ses enfants et beaux-enfants. Elle en a parlé 30 ans après. Et elle n'avait pas trouvé à l'époque les personnes qui avaient été attentives à son cri. Et elle savait, voilà, elle avait du coup refoulé parce que c'était trop blessant pour elle. Mais voilà, elle a vu avec aussi les évolutions qui sont produites à partir de 2010 dans l'Église qu'il y avait une nouvelle attitude et peut-être une brèche dans laquelle se glisser pour être entendue.
Ce soir-là, beaucoup de questions ont été posées à l'écrit et l'une d'elles est souvent revenue.
Une question qu'on a beaucoup entendue à la suite de la publication du rapport, si on en finissait enfin avec la question du célibat et de la chasteté des prêtres, est-ce que l'on éviterait le viol des enfants?
Et voici la réponse de la déléguée, Ségolène Mogg.
Être célibataire, ce n'est pas être un agresseur en puissance. Là encore, la question pensée en termes de frustration, c'est une méconnaissance de ce que c'est que le phénomène de la violence et de l'agression sexuelle commise sur des mineurs. On est bien en train de parler, non pas d'une relation entre deux adultes consentants, mais d'une transgression tout à fait particulière, qui relève d'un trouble psychosexuel lui-même particulier, qui est l'abus, la violence exercée contre un enfant. Il demeure que la question du célibat, elle a été interrogée à frais nouveau par l'équipe de Jean-Marc Sauvé et pose une hypothèse intéressante. Et si, dans certains cas, le célibat consacré était vécu comme une autre manifestation de la toute-puissance. S'il y avait là une manière un peu héroïque de le présenter, qui renforçait, pour certains, en fait, un sentiment de toute-puissance qui peut ensuite les pousser à violenter et à agresser des personnes mineures ou vulnérables. C'est une hypothèse et elle mérite d'être creusée.
À la sortie de la réunion, Jérôme, croyant pratiquant, attend des résultats concrets de la part de l'Église pour lutter contre cette pédocriminalité.
J'ai connu, étant ado, des situations avec des jeunes autour de moi qui avaient été agressés. Et puis aujourd'hui, je connais des parents d'enfants qui sont concernés par cette question-là. Donc ma question, c'est surtout aujourd'hui, qu'est-ce que va faire l'Église pour bouger là-dessus ? Donc moi, je me suis mis une deadline, si vous voulez, c'est dans un an. Dans un an, je regarde, si ça n'a pas bougé, je pense que je prendrai des décisions personnelles un peu rudes. C'est-à-dire que je quitterai l'Église et je chercherai éventuellement un lieu où je peux exprimer ma foi autrement. Mais je suis confiant, je pense que l'Église va bouger.
Il y a quelques jours, la conférence des évêques a reconnu officiellement la responsabilité institutionnelle de l'Église. Des groupes de travail pour lutter contre la pédocriminalité verront le jour. Une instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des victimes va être créée, avec notamment un fonds d'indemnisation qui sera alimenté par la vente de biens immobiliers ou mobiliers des diocèses.
Et les victimes de pédocriminalité dans l'Église catholique pourront s'adresser en début d'année 2022 à cette instance nationale pour demander réparation. C'est désormais le Portugal qui commande un rapport sur les abus sexuels dans l'Église. Et en la matière, l'Allemagne fait figure de précurseur en Europe. Tout commence en janvier 2010 dans un prestigieux collège jésuite berlinois. À l'époque, le directeur écrit une lettre aux anciens élèves pour savoir s'ils ont été victimes de maltraitance. Plus de 500 élèves se manifestent, déclenchant une vague de révélations dans tout le pays. Le scandale est tel que l'Église est obligée de réagir. Les explications de Déborah Berlioz.
Des écoles catholiques, des orphelinats, des foyers pour jeunes en difficulté, les révélations sont venues de partout en 2010. Pas possible donc de faire l'autruche. En 2013, l'Église catholique allemande commande une étude sur l'ampleur des abus. Parue en 2018, ses résultats sont accablants. Entre 1946 et 2014, plus de 3600 enfants auraient été victimes d'abus sexuels commis par plus de 1600 membres du clergé. Et cela n'est certainement que la partie émergée de l'iceberg, car de nombreux dossiers ont été perdus ou détruits selon les auteurs de l'étude. D'ailleurs, les coupables ont rarement été inquiétés et seul un tiers a fait l'objet de procédures en vertu du droit canonique. Depuis, les choses bougent doucement. Chaque diocèse a ainsi entamé une enquête locale supplémentaire, mais la franchise n'est pas encore totale. Par exemple, l'archevêque de Cologne avait commandé une étude en 2018, mais il a ensuite refusé de la rendre publique. La décision a suscité l'exaspération des victimes et la fuite en masse de fidèles dans le diocèse. Acculé, le prélat a commandé une deuxième étude. Le rapport publié en mars dernier établit que plus de 300 jeunes garçons ont été victimes d'abus dans le diocèse de Cologne entre 1975 et 2018. L'Église catholique a également mis en place cette année une commission indépendante pour étudier les affaires d'abus. Les victimes peuvent y demander un dédommagement pouvant aller jusqu'à 50 000 euros. Mais la procédure est longue et laborieuse, au grand dam des associations de victimes. L'étude de 2018 recommandait aussi une réforme en profondeur de l'Église catholique. Fin 2019, l'Église a donc lancé un grand dialogue, un synode, pour réfléchir à sa modernisation. Le célibat des prêtres et la place des femmes font notamment partie des sujets discutés. Il faut dire qu'il en va de la survie de l'Église catholique. Depuis 2010, elle a perdu 2,5 millions de membres, soit 10% de ses fidèles.
La transition énergétique, on en a beaucoup parlé pendant la COP26, c'est une question particulièrement inflammable, notamment dans les Balkans où les centrales au charbon restent les piliers de l'économie. En Serbie, par exemple, le lignite, ce charbon brun très polluant, assure
plus de 70% de l'électricité locale et emploie directement et indirectement des dizaines de milliers de personnes. Mais les centrales serbes font partie des plus polluantes d'Europe et les citoyens serbes font pression pour que leurs dirigeants entament enfin une transition énergétique vers des énergies plus propres. Reportage à Kolubara et à Belgrade de Louis Seyé.
Une terre noire et poussiéreuse et des machines d'extraction qui creusent toujours plus profond. Nous sommes dans le centre de la Serbie, dans la région de Kolubara. Autour de la rivière qui coule vers le nord, les mines à ciel ouvert s'étendent sur des centaines de kilomètres carrés. Le roi de Kolubara, c'est le lignite, un charbon particulièrement nocif. Miodrag Rankovic est fils et petit-fils de mineurs. Il a commencé à travailler au complexe minier de Kolubara en 1981.
Pour tous les pays, c'est une grande richesse de pouvoir compter sur sa propre énergie et être indépendant. Mais aujourd'hui, les énergies vertes sont à la mode et les petits pays comme le nôtre subissent d'énormes pressions de la part des grands pays européens avec les différents programmes énergétiques. Mais ces énergies vertes ne sont pas les bienvenues dans notre région.
On estime à plus de 4 milliards de tonnes la quantité de lignite enfouie dans le sous-sol serbe. Ces réserves immenses et les différentes centrales au charbon de Kolubara couvrent la moitié de la production d'électricité de la Serbie. Depuis 2005, Miodrag Rankovic est également président du syndicat des mineurs. Il tient à défendre les emplois des 30 000 personnes qui travaillent pour EPS, la compagnie publique d'électricité de Serbie.
Nous n'avons rien contre une transition énergétique lente, mais nous ne pouvons pas fermer nos centrales d'ici 2030, comme certains nous le demandent. Dans notre région, la plupart des gens dépendent de l'extraction du charbon. Le solaire ou l'éolien ne permettent pas de créer beaucoup d'emplois. Si nous fermons les centrales, quel sera l'impact social de cette transition? Il y aura des pertes d'emplois pour tous les gens qui travaillent ici.
Si elles font la fierté des mineurs, les vieilles centrales au charbon du pays sont de plus en plus critiquées par les citoyens serbes. À Belgrade, ils sont des milliers à manifester régulièrement pour une transition énergétique et le respect des engagements climatiques du pays. Il faut dire que les fumées de Kolubara sont particulièrement toxiques. La Serbie détient le triste record européen du nombre de morts liées à la pollution de l'air, 175 pour 100 000 habitants. Kristina Vojvodovic est spécialiste des énergies renouvelables pour l'ONG RERI.
Selon les obligations du traité de la Communauté européenne de l'énergie, la Serbie devait appliquer de nouvelles normes d'émissions au 1er janvier 2018. Mais malgré cela, elle émet 6 fois plus de CO2 que ses normes le permettent. Et malheureusement, il n'y a absolument rien de prévu pour réduire ses émissions. Notre ONG a plusieurs fois saisi l'inspection, mais ils ont répondu que ça ne relevait pas de leurs compétences et qu'ils ne pouvaient rien faire.
Du côté des syndicats, on entend ces nouvelles exigences citoyennes, mais on s'inquiète surtout pour l'avenir des milliers d'employés du secteur énergétique. La précédente transition du socialisme vers l'économie de marché a laissé des traces et le mot « transition » est aujourd'hui souvent synonyme de privatisation et d'appauvrissement. À Belgrade, Dragana Petković est la responsable de la principale confédération syndicale de Serbie.
La transition énergétique est un sujet très inflammable et nous avons besoin de temps pour nous préparer. Cette question d'une transition juste se pose plus dans les pays de l'Est de l'Europe qu'à l'Ouest. Il faut avoir une attitude balancée pour que cette transition soit réellement juste.
Reconversion industrielle, formation, retraites anticipées, la transition énergétique représente un coût et des investissements considérables pour la Serbie. Mais du côté des nouveaux mouvements écologistes, on se veut rassurant. Predrag Momčilović est l'un des acteurs du mouvement citoyen « Ne laissons pas couler Belgrade ».
Nous pouvons apprendre d'anciennes régions charbonnières d'Europe. Par exemple, en Allemagne, certaines régions ont mis en place cette transition assez juste. Mais pour ça, il faut un soutien fort de l'État afin qu'il y ait d'importants investissements qui permettent l'ouverture de nouvelles industries dans le renouvelable. Des investissements qui facilitent la reconversion des ouvriers qui travaillent actuellement dans les centrales au charbon.
Des investissements qui ne sont pas pour demain. Rejetant les pressions européennes qui le poussent à investir dans la transition énergétique, le président serbe a récemment déclaré qu'il ne fermerait pas les centrales au charbon du pays. Aleksandar Vučić les considère en effet comme un atout indispensable face à la flambée actuelle des prix de l'énergie.
Et du côté de l'Union européenne et de son pacte vert, le Parlement européen s'est emparé le mois dernier de 12 propositions pour le climat. L'objectif de ce vaste paquet législatif, c'est de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre en Europe d'au moins 55% pour 2030. L'industrie, les transports, les logements, toutes les entreprises, tous les citoyens seront mis à contribution. Mais une mesure de taxation qui concernerait les chauffages domestiques suscite beaucoup de questions car elle frapperait d'abord les plus pauvres et les plus vulnérables. Un reportage de Myriam Bell de la RTBF.
C'est bien isolé parce que là-bas, ça ferme pas.
Une locataire bruxelloise suivie à la trace par une petite fille. Elle présente leur cuisine mal isolée.
Je chauffe pas cette pièce, je chauffe pas. Ça gaspille beaucoup trop d'énergie ici.
Cette locataire a bien en tête les failles de son logement, mais elle n'a pas en main les solutions. C'est au propriétaire de faire des travaux, mais s'ils étaient réalisés, à combien s'élèverait alors le loyer ? Aujourd'hui, dans cet appartement, chaque facture est un stress.
À chaque fois, c'est une petite panique.
En laissant cette maman gérer une autre énergie, celle de sa fille, que nous avons empêchée de faire la sieste, il nous vient une question. Combien sont concernés par cette panique de la facture ? Dans l'Union, 50 millions d'Européens sont en situation de précarité énergétique. Or, aujourd'hui, la proposition de la Commission de taxer les combustibles de chauffage en instaurant un marché du carbone impliquerait d'alourdir les factures des consommateurs. Ce sont en fait les distributeurs de combustibles qui seraient soumis à ce système ETS, mais ils répercuteraient probablement ce surcoût sur les particuliers. Quel serait le combustible le plus impacté ? Tout dépend de la méthode de calcul à décider. Si l'on classe les combustibles selon les émissions à la sortie de la cheminée, le charbon dégage le plus de CO2. 60 000 ménages sont concernés par ce mode de chauffage en Belgique. Puis viennent le bois et le mazout. Mais si l'on prend en compte aussi le mode de production et de transport, alors le bois s'en sort bien mieux puisque les arbres pompent du CO2 en grandissant. Et le gaz, c'est l'inverse, insiste Olivier Nérink, qui représente notamment les négociants de mazout.
Le gaz naturel qui vient de Russie ou du Qatar est transporté par gazoduc qui doit être repompé tous les 40 ou 50 km. Et les unités de repompage sont des vrais nids de production de CO2 maximum.
Les représentants des différentes énergies font ainsi le lobbying de leur combustible en ce moment.
Au Portugal, face aux feux de forêt, les bergers reviennent à d'anciennes méthodes de prévention. Avec des chèvres notamment, elles débarrassent les forêts des broussailles très inflammables. Marilyn Darcy.
C'est à la suite des grands incendies de 2017 que le gouvernement portugais a décidé de créer par décret le projet des chèvres sapeuses. Les animaux sont chargés de débroussailler les landes et les sous-bois dans des régions isolées pour diminuer le matériel combustible. Et l'idée séduit. Luis Pinto, ancien entrepreneur en bâtiment qui a perdu son entrepôt dans l'un de ces incendies de 2017, a ainsi saisi l'occasion pour se constituer un cheptel de 100 bêtes et s'installer dans la nature, au cœur de la Serra do Açores. L'État lui donne 23 euros par animal et par an. Comme il n'a pas assez de bêtes pour monter une fromagerie qui compléterait ses revenus, Luis s'est fait conseiller pour aider à monter des projets similaires dans sa région. Le métier d'éleveur et de berger attire de plus en plus, au point de voir les écoles d'agriculture proposer des formations spécifiques afin de préparer des jeunes urbains à l'installation. On y enseigne la nutrition, la zoologie et la gestion, bien au-delà de l'image traditionnelle du berger appuyé sur son bâton dans la montagne. La profession est difficile. Aujourd'hui, il y aurait 15 000 chèvres sapeuses du nord au sud du Portugal à elles seules. Elles n'empêcheront pas les grands incendies, mais la présence des éleveurs, des bergers et de leurs animaux est une garantie de lutte contre la désertification humaine, principale cause des ravages incendiaires. La prise de conscience est réelle. Beaucoup ont envie de faire quelque chose pour éviter la répétition des fléaux de 2017.
Accent d'Europe à la réalisation Françoise Grelot. L'émission est disponible en podcast sur RFI.fr et sur les plateformes d'écoute. À bientôt.